carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Yvan Broard, chargé de mission Arts et Sciences de l'Université Paris-Descartes et commissaire d'exposition au réfectoire de Cordeliers depuis 2009, et également responsable de la politique éditoriale de l'Université Paris-Descartes, pour évoquer l'œuvre de l'académicien Pierre-Yves Trémoy, 92 ans, une immense œuvre derrière lui, discret en ce moment, mais pas tant que ça. Et nous allons évoquer ses œuvres récentes. Magnifiques, on peut les voir actuellement, mais on peut aussi et surtout consulter le livre « Trémoy, trait de passion » qui fait le point sur ses dernières œuvres. Bonjour Yvan Broard.
Bonjour.
Alors peut-être pour présenter à nos auditeurs Trémoy, faudrait-il dire que Trémoy est le spécialiste du trait et qu'en exergue de ce magnifique catalogue Trait de passion, il y a une citation de François Cheng de l'Académie française, « Il suffit d'un trait et tout recommence ». Et ça a été, je crois, un des moteurs ces derniers temps pour Pierre-Yves Trémoy.
Écoutez, c'est vrai que le trait, pour Pierre-Yves Trémoy, c'est véritablement le fil conducteur de toute son œuvre, une œuvre immense, comme vous l'avez rappelé. Pierre-Yves Trémoy est certainement l'une des grandes figures artistiques du XXe siècle, au même titre que Dali, que Mathieu, que Buffet, qu'il a longuement côtoyé. Et toute son œuvre, en fait, est marquée par le trait, un trait qui a été influencé par le Japon, par le dessin japonais, et Pierre-Yves Trémoy a une passion toute sa vie, encore à l'heure actuelle, véritablement pour le Japon. Et dans le titre de cette exposition, Trait de passion, eh bien, il y a le contenu complet de cette œuvre. Le trait, d'une part, et aussi la passion, dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure.
Comment vous définiriez le trait de Trémoy ?
Le trait de Trémoy est un trait d'une pureté absolue. Et ce qui est intéressant dans ce trait, qui est un trait noir, qui est peint à l'acrylique sur les toiles, par exemple, dans l'exposition, sur une toile blanche, avec parfois des rehauts de rouge, mais il y a très peu de couleurs. On est souvent entre le noir, le blanc et le rouge. Eh bien, ce trait est intemporel, en quelque sorte. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il ne tolère aucun repentir. Quand on regarde, par exemple, les œuvres de Trémoy, qui sont de très grandes dimensions dans l'exposition, un des murs, par exemple, de la chapelle de la Genèse fait 7,30 m sur 4 m de haut. Donc vous pouvez vous figurer, en fait, cette gestuelle qu'il faut pour lancer le trait. Eh bien, ce trait, qui ne tolère aucun repentir, ne tolère que très peu d'ombre. Il n'y a pas de volume. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, cette caractéristique le rend totalement intemporel.
Alors, c'est la caractéristique de ses œuvres récentes, mais Trémoy a peint aussi en couleur. Il a sculpté, il a gravé, il grave d'ailleurs, toujours. Il y a des pièces aussi de céramique. Enfin, c'est vraiment un homme qui utilise tous les supports. Lui qui est à l'aise sur tous ses supports a choisi celui-là pour expression majeure. Là.
Pour expression majeure, parce que le trait, en fait, libère de tout sentimentalisme. Comme je le disais, c'est ce qui le rend véritablement intemporel. Alors, à savoir que même lorsqu'il a utilisé plus de couleurs, eh bien, ce trait est toujours resté dominant. Et vous disiez qu'il est aussi un graveur, et ça, c'est extraordinaire, parce que sur la gravure, il n'y a aussi aucun repentir possible. Et en fait, là, l'œuvre du peintre dérive directement de son œuvre de graveur. Mais en même temps, c'est vrai aussi que Pierre-Yves Trémoy est un artiste universel, chercheur, créateur. Bon, il est à la fois orfèvre, il est sculpteur. Il y a d'ailleurs dans l'exposition deux magnifiques bronzes, dont l'un s'appelle Champ de bataille, CHANT, de bataille. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est vrai aussi que bon, il a traité la céramique. Et donc c'est un artiste totalement complet. Mais je pense que son expression favorite est là qui trouve, je dirais, son paroxysme, c'est justement ce trait et l'intemporalité de ce trait.
Alors, on en a un magnifique exemple avec ses dernières œuvres qui sont rassemblées dans une exposition actuellement au réfectoire du Cordelier, qu'on peut voir jusqu'au 8 mai 2013. Mais combien d'œuvres ont été rassemblées là, pour l'exposition?
Alors, il y a dans l'exposition une trentaine d'œuvres. Alors, ça peut paraître peu. Pour une exposition dans une salle, celle du réfectoire, qui est un des hauts lieux historiques de Paris et qui déploie 800 mètres carrés avec des voûtes à 8 mètres de hauteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas affaire à une exposition classique, à une exposition normale où on peint les tableaux sur des simèzes. Là, les tableaux, en fait, descendent des 8 mètres. Voyez, des voussures, et en fait, ils paraissent en totale suspension. Donc, les 30 œuvres n'apparaissent pas en tant que telles, parce que, par exemple, on s'aperçoit qu'on a une œuvre qui est la Passion du Christ, et qui s'étale sur quelques 22 mètres de long, et sur 90 cm de hauteur. Comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des œuvres qui font 4 mètres sur 7,30 mètres. Alors, il y a des œuvres qui sont aussi des études pour les violences, pour l'amour, etc., qu'il développe à loisir dans cette exposition, et qui, là, sont de plus modestes de taille, mais qui représentent quand même, la plupart du temps, 1 mètre, 1 mètre 30 sur 90 cm. Donc, vous voyez que les 30 œuvres occupent très largement et magnifiquement cet espace des Cordeliers.
En fait, elles s'inscrivent vraiment dans l'espace et non sur les murs des Cordeliers.
Totalement, elles sont en apesanteur en quelque sorte.
Ça se marie très bien justement avec ce trait épuré et intemporel dont vous parliez, puisque là, le spectateur a une vision panoramique justement de ses œuvres, suspendues pour certaines au-dessus de sa tête, avec ces très très grands formats, ou au contraire des œuvres de moyenne dimension, mais qui sont déjà importantes, et qui peuvent avoir plusieurs lectures aussi. Donc là, vous avez présenté des œuvres tout à fait surprenantes quand même dans leur variété, même s'il y a ce trait commun, cette intemporalité des œuvres de ces dernières années chez Trémois. On va peut-être commencer par la passion.
Oui,
puisque alors,
c'est le thème essentiel
qui réunit toutes ces œuvres pour l'exposition. Mais avant même que l'exposition ait lieu,
oui,
Trémois travaille sur ce thème de la passion depuis plusieurs années.
Tout à fait. L'exposition n'est que l'expression, en quelque sorte, de son travail, de l'aboutissement, en fait, d'un travail qui a duré des dizaines d'années, en quelque sorte.
Mais là, ces dernières années, vraiment, il s'est concentré sur la passion avec un P majuscule et un P minuscule.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que la passion, Yvan Broir, pour Pierre-Yves Trémois?
Alors, la passion, c'est la passion des hommes, tout d'abord, donc là avec un petit P, comme vous le disiez. C'est la passion des hommes qui s'exprime à travers l'amour, à travers le désir, à travers la violence, à travers la haine, donc qui sont des valeurs ambivalentes, mais qui sont propres à chaque homme. Et puis, ce que Pierre-Yves Trémois a voulu aussi exprimer, c'est que cette passion des hommes, eh bien, elle peut être sacralisée, elle peut être symbolisée par la passion, donc là avec un grand P, qui est la passion du Christ, que j'évoquais à l'instant, et qui est une fresque monumentale en trois couleurs pratiquement, en rouge, en noir et en blanc. Le rouge, bien entendu, qui rappelle le sang du Christ. Donc, il y a une sacralisation, et on retrouve, en fait, dans cette passion du Christ, eh bien, tout ce que les hommes, eux aussi, vont avoir comme valeur, hein, valeur positive, valeur négative, celle de la violence, celle de la haine, qu'on voit, par exemple, sur le chemin de croix, mais aussi l'amour du Christ, le rédempteur de tous les hommes, en quelque sorte.
Alors, arrêtons-nous un petit peu pour commencer sur cette passion. Pierre-Yves Trémois écrit parce que il écrit aussi sur ses toiles, on l'a qualifié de calligraphe d'ailleurs, et il écrit « Étant assez ignorant de la liturgie chrétienne, les angoisses du couchant m'ont naturellement conduit à me confronter au drame de la passion. Comment interpréter le dramatique mystère de la passion face aux innombrables chefs-d'œuvre existants, si ce n'est par la simplicité? Avant de commencer la réalisation de cette peinture sur toile de 23,50 m de longueur sur 90 cm de hauteur, j'avais inscrit sur le mur de mon atelier « Fais ta passion d'un trait qui transperce et à toute barde et sans repentir ».
Voilà ce que nous évoquions tout à l'heure, là, le peu de repentir. Et en fait, c'est ce trait incisif qui va tout de suite à l'essentiel. Et là, dans cette passion, en fait, il ne décrit pas dans toutes les stations du Christ, etc., mais il va focaliser, par exemple, sur un pied, il va focaliser sur une main, sur un visage souffrant, etc. Et donc, on a, en quelque sorte, le concentré à la fois au niveau de la thématique, voyez, de la progression, en fait, de ce chemin de croix, et en même temps, cette simplicité du trait, mais d'un trait qui est incisif et, comme il le dit lui-même, qui est destiné à transpercer celui qui va le regarder.
Et là, on a effectivement ces toiles qui sont accompagnées de ces, j'allais dire, ces mots sous forme de flèches dessinées, tracées.
Et ça aussi, c'est la singularité de l'œuvre de Trémois qu'on rencontre très rarement, en fait, chez les grands artistes. Et là, il y a toujours cette symbiose, et qui a toujours existé, d'ailleurs. Je ne pense pas que ça soit propre aux dernières œuvres.
Non, ça fait effectivement...
Il y a toujours eu, si vous voulez, cette symbiose entre la calligraphie, entre l'écriture, qui est une sorte de prolongement du trait. Alors, on ne sait pas si l'écriture porte le trait, ou c'est le trait qui porte l'écriture, mais il y a une complémentarité indéniable. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde, par exemple, un dessin, une peinture, une gravure, on a une approche qui dépend, bien entendu, de sa subjectivité. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à deuxième lecture, la deuxième lecture, elle va se faire par la lecture des mots, des phrases qu'il peut y avoir, parfois un simple mot qui écrit comme un éclair dans la toile. Et c'est un éclairage nouveau qui nous est donné. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs temps de lecture, et c'est pour ça qu'on s'aperçoit, par exemple, que les visiteurs de l'exposition, qui pourraient traverser l'exposition en l'espace de 3 minutes, eh bien, restent parfois 1 heure et reviennent, parce qu'ils se nourrissent, en quelque sorte, à la fois du trait, mais aussi du texte.
Oui, et le texte est très très présent et il a aussi sa liberté dans l'inscription.
Il y a une totale liberté.
Il y a une liberté des mots choisis qui lui ressemble.
Une spontanéité, semble-t-il. Voilà. Alors, je ne peux pas parler à la place de Pierre-Yves Trémois, mais il est évident que je pense que le texte est un texte spontané, beaucoup plus que réfléchi en quelque sorte.
Quelle est l'image qu'on pourrait décrire de cette passion pour nos auditeurs?
C'est assez compliqué, c'est assez difficile, mais c'est vrai que ce Christ que l'on peut voir qui est allongé en quelque sorte, bon, est magnifique. Alors ce que l'on peut voir aussi au-delà de la de je dirais du choix d'une simple image, c'est que Trémois a voulu universaliser le thème. Alors certains, par exemple, se trouvent un petit peu, je dirais, surpris par le fait que les larrons, par exemple, ou que les personnages qui entourent le Christ peuvent porter un jean, par exemple. Voyez ? Eh bien, je crois qu'il y a une volonté délibérée de Trémois de développer à la fois cette notion d'intemporalité que l'on évoquait tout à l'heure et d'universalité. C'est un trait qui à la fois est l'héritier des grands graveurs comme Dürer, par exemple. On a cette force, on a cette puissance. Dürer, d'ailleurs, qui l'a largement illustré. Et puis, on a aussi une modernité. Et c'est ça qui rend cette singularité d'écriture. C'est que, je dirais, Trémois est un artiste hors du temps, en quelque sorte. Vous voyez, c'est un artiste d'un autre temps, mais profondément de notre temps en
de
même temps.
De notre temps à nous.
Vous voyez ? Et donc, il est d'un autre temps, en quelque sorte. Et c'est, moi, je pense que ce trait est très associé à cette notion intemporelle. Voyez, je pense que ça, c'est le fondement de toute l'œuvre de Trémois, qui est une œuvre qui restera malgré les modes, malgré les évolutions, si vous voulez, parfois liées à une spéculation outrancière. Bon, là, je ne veux pas déborder du sujet, mais c'est une œuvre qui marque, c'est une œuvre qui restera profondément marquée. Et ce qui est assez intéressant, Trémois, donc, il y a une longévité de création assez extraordinaire, et j'ai pu le constater, par exemple, à l'inauguration de l'exposition, ou même lorsqu'on parle de Trémois, eh bien, c'est un plaisir véritable pour les gens qui ont connu Trémois dans les années 70-80, de revoir, en fait, cette œuvre, et une œuvre qui est arrivée à une maturité absolue.
Voilà.
Trémois est en quête d'absolu.
Oui. Et on peut aussi voir dans le catalogue des dessins au crayon qui sont magnifiques et qui ont accompagné l'étude justement de cette passion.
Absolument.
De plusieurs mètres de long. Alors peut-être évoquons-nous maintenant, Yvan Broard, les autres passions.
Oui.
La passion, disons cet antagonisme sur lequel Trémois a travaillé toute sa vie,
oui.
Entre amour et violence.
Amour et violence, c'est-à-dire ce mélange détonnant en quelque sorte aux yeux du public qu'il peut y avoir entre l'érotisme, la sensualité et en même temps eh bien, ces violences mais qui en fait sont inhérents à l'homme. Et ce qui est intéressant avant d'aborder les deux parties de l'exposition sur la passion, et qui est lié en fait essentiellement à des enlacements très sensuels, charnels, etc. Et puis les violences, c'est qu'il a tenu absolument à symboliser tout cela dans une chapelle de la Genèse. Chapelle de la Genèse qui est quelque chose d'immense hein, dans l'exposition, qui est destinée d'ailleurs à devenir une véritable chapelle, hein, mais que l'on n'a pas pu exposer dans sa forme définitive, puisqu'on n'aurait pas pu ensuite la transporter, mais qui nous est livrée à l'état brut. Et là, on a à la fois dans cette chapelle de la Genèse la volonté qu'il a eue de montrer la préfiguration qu'il pouvait y avoir, vous voyez, dans cette sorte de cellule, dans ce cocon initial, cette préfiguration des violences futures, c'est-à-dire bon, des choses qui vont être quand même très négatives, mais aussi de tout ce qu'il y a de positif lié à la procréation, qu'il évoque d'ailleurs à travers traités de manière assez scientifique, les ovules, les spermatozoïdes, etc., et une procréation qui porte les hommes, si vous voulez, à un avenir et à un optimisme, en quelque sorte. C'est-à-dire tout ce qui fait la vie de l'homme, tout ce qui fait en fait les préoccupations fondamentales de l'individu. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que au-delà de ce traitement, vous voyez qu'on peut voir dans la chapelle sur cette préfiguration à la fois hein, des notions de haine, de violence, mais aussi ces notions tout à fait positives, il y a toujours une connotation en deuxième plan. D'éléments scientifiques. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit un très beau livre sur Galilée, par exemple, qu'il a illustré. Et il a travaillé beaucoup aussi avec Jean Rostand. Et on s'aperçoit qu'au fond de son œuvre, il y a toujours cet aspect humaniste, c'est-à-dire à la fois artistique, de création, mais aussi scientifique. Et il évoque, là en filigrane, en permanence, les grandes préoccupations de l'homme, sur, je dirais, le mystère de la création, mais aussi le mystère de l'univers. Et tout ça apparaît en filigrane et donne un côté tout à fait, je ne dirais pas scientifique, mais donne une autre dimension qu'une dimension purement artistique.
Et par exemple, dans l'abside, on voit une main. Évidemment.
Oui.
Effectivement, des cellules.
Tout à fait.
Figurées de façon différente et contrastée, ça c'est tout l'art de Trémois, avec un couple enlacé et Dieu, personne ne l'a jamais vu, tout a été fait par lui et sans lui, rien n'a été fait. De tout être, il était la vie. Ça c'est Saint Jean. Et ensuite il y a écrit, il a dessiné l'homme, genèse de l'embryon, à l'homme, la révélation. Une autre bulle qui dit « L'accouplement, mystère de la création, fusion des humains, des animaux et des plantes. » Et une dernière bulle où est écrit « écrit ou peint. Aimez-vous les uns les autres. Et ça aussi, ça résume un peu
tout à fait.
L'œuvre de Trémoin, oui, à laquelle il reste fidèle aussi.
Totalement. Et c'est ce qui est d'ailleurs dans la partie absidiale de la chapelle.
Alors, il y a des anamorphoses.
Voilà. Et les anamorphoses qui sont extraordinaires. Et là, il s'inscrit tout à fait dans la tradition d'Holbein, par exemple, avec son fameux tableau des ambassadeurs, et des anamorphoses qu'il maîtrise à la perfection. Et pas seulement dans ses œuvres, dans l'œuvre qui est présentée, là, notamment sur l'abside de la chapelle, mais qui sont présentes dans toute son œuvre.
Alors, on a évoqué un petit peu l'aspect scientifique qui est présent, enfin tout ce qui est les interrogations à la fois spirituelles,
métaphysiques,
qui sont mêlées aux interrogations scientifiques de notre époque. Donc, c'est cette modernité dont vous nous avez parlé.
Oui, et c'est pour ça que sur cette exposition, j'ai voulu faire intervenir, au niveau des textes, vous évoquiez le catalogue tout à l'heure, j'ai voulu faire intervenir des personnalités très différentes, pour donner une dimension supplémentaire encore à l'œuvre de Trémois. Donc j'ai fait appel à Thierry Delcourt, qui est un psychanalyste, écrivain, en même temps critique d'art, à Lydia Rambourg, bien entendu, critique d'art et historienne, à Axel Kahn, essayiste mais généticien, à Michel Lagrange, à Michela Marzano, qui est une de nos plus grandes philosophes actuelles, de manière à avoir une sorte de complémentarité, voyez, de point de vue, sur cette œuvre qui dépasse, au-delà des prouesses artistiques, largement le cadre, si vous voulez, des beaux-arts, en quelque sorte.
Alors, il y a toute la thématique sur la violence qui est très, très forte. Là, ce sont des grands formats.
Des grands formats que l'on a voulu, à sa demande d'ailleurs, au niveau de la scénographie, par exemple, de cette exposition, parce que la plupart du temps, on les voit à plat. Et là, qu'on a voulu faire descendre du plafond, si vous voulez, en mettant en équation le thème de cette violence anarchique, parfois, et puis la mise en situation dans l'espace des tableaux qui apparaissent totalement tordus, etc. Vous voyez, et ça, en quelque sorte, bon, je pense qu'il y a été extrêmement sensible, parce que ça poursuivait véritablement la manière dont il voit, si vous voulez, les choses. Alors, d'une autre manière, au niveau de la passion des hommes. Eh bien là, on a traité ça, si vous voulez, de manière beaucoup plus, je dirais, linéaire. Vous voyez, presque comme dans une galerie, où là se déploient en fait des accouplements, alors dont on pensait qu'ils pourraient choquer, dans la mesure où ils sont extrêmement réalistes. Et on n'a eu aucun, par exemple, dans cette exposition, aucune critique, aucune réserve par rapport à ça. Et là, la force de Trémois, dans son œuvre, comme dans cette exposition qui la symbolise, eh bien, c'est à la fois ce mélange dont il est capable de faire preuve au niveau de sa création, avec des choses qui paraissent totalement antithétiques et improbables, si vous voulez, dans le cadre d'un même lieu, et qui, au final, passent très bien parce que chacun s'y retrouve, puisqu'il est au centre et au cœur de la vie.
Pour explication, je rappellerai pour explication complémentaire, je voudrais vous entendre nous expliquer le titre de l'exposition « Traits de passion, Trémois, héros et Dieu ». On a commencé par la passion, pour la passion avec la passion du Christ, mais quel est l'enchaînement « Trémois, héros et Dieu » ?
Mais pour lui, tout n'est qu'un, en quelque sorte. Dieu est celui qui a créé, en fait, l'homme avec toutes ces ambivalences que l'on vient de voir. Et ce que je viens d'exprimer, là, par exemple, en opposant les tableaux sur la violence et les accouplements, il faut bien appeler les choses telles que par leur nom, eh bien, pour lui, si vous voulez, bah, ça fait partie complètement de la vie. Et en fait, pour certains, bon, Eros, l'érotisme, etc., l'érotographe, on a parlé de Trémois l'érotographe, quelque chose qu'il revendique d'ailleurs et qu'il aime assez au niveau de l'appellation, eh bien, pour lui, tout ça n'est pas du tout opposé, n'est pas antithétique, véritablement, de la foi. Je pense que tout est mêlé, en quelque sorte, dans l'homme, et on a trop souvent tendance, voyez, à compartimenter. Ça, c'est peut-être aussi un mal français particulièrement, c'est-à-dire que on va mettre en fait dans des cadres certaines choses. Et lui, la force de son œuvre, c'est justement, si vous voulez, d'arriver à faire cette symbiose. de manière détonnante, a priori, mais tout à fait humaine.
Et il y a une citation pour expliquer ses passions, une citation de Benoît XVI, « L'amour de Dieu est aussi éros ». Ces allers-retours entre la passion, les violences, l'amour, qui sont vraiment les...
Parce qu'on a trop tendance, en fait, à les...
Ces points d'ancrage, voilà. À la fois dans la vie et dans son...
Voilà, œuvre. Et en fin de compte, et ça a été, si vous voulez, cette exposition. Et pour lui, je pense que c'est aussi un grand révélateur par rapport à son œuvre, si vous voulez, c'est de mettre en équation toutes ces œuvres-là, voyez, et de voir la réaction du public. Et la réaction, croyez-moi, est extrêmement positive, à la fois pour des gens qui ont connu Trémois et qui le considèrent bon, à l'apogée de son œuvre à l'heure actuelle, mais aussi pour des nouveaux visiteurs. Et moi-même, si vous voulez, en tant que commissaire d'exposition, j'ai été très surpris. Alors bien entendu, c'est pas une œuvre qui s'adresse en fait à tous les âges, quoique. Bon, alors bien entendu, on a mis une petite note à l'entrée de l'exposition disant que la sensibilité des enfants pouvait être heurtée, sous-entendu celle de certains adultes aussi. Et il n'y a eu aucune connotation négative. Comme quoi les gens, si vous voulez, se retrouvent totalement dans cette œuvre. Et ce qui explique, comme je le disais tout à l'heure, que Trémois restera, si vous voulez, un des artistes majeurs de notre temps.
Voilà. Et en plus des toiles, sont présentées également quelques sculptures,
oui.
Des grands bronzes de ces couples, de ces enlacements, des couples enlacés au sol.
Qui montrent la maîtrise de Trémois, pas seulement au niveau de la peinture, au niveau de la gravure, mais comme on l'évoquait, au niveau de la sculpture. Des bronzes qui sont magnifiques, hein, parce qu'ils sont grandeur nature, voire plus que grandeur nature. Hein. Ils sont très, très peu nombreux, il y en a deux dans l'exposition. Hein. On a voulu véritablement laisser, je dirais, cette perspective des toiles qui sont en suspension, hein, une sorte certaine irréalité, et puis deux points d'ancrage. Un point d'ancrage avec le Miserere et les deux mains, si vous voulez, du Christ sur fond d'épines. Et puis d'un autre côté, en contrepartie, eh bien, cet accouplement qui traduit la passion des hommes à travers cet accouplement.
Yvan Broir, merci de nous avoir présenté aussi bien l'œuvre de Trémois et en particulier Traits de Passion, l'exposition que vous avez réalisée au Réfectoire des Cordeliers. Traits de passion, Trémois, Héros et Dieu, c'est du 11 avril au 8 mai 2013. Mais vous avez d'autres projets concernant l'espace des Cordeliers. Et quelle est en quelque sorte, pour présenter à nos auditeurs, la politique artistique voulue là, par l'Université Paris Descartes? Quelle est votre mission?
Eh bien, la mission, c'est une mission. Enfin, je suis chargé de mission à Ré-Sciences et cette mission a deux facettes. C'est Axel Kahn, lorsqu'il était président de l'université, qui m'a confié les manettes, en quelque sorte, si vous voulez, de cette mission, de 2008 à 2012. Et Frédéric Dardel, l'actuel président, a continué tout à fait dans cette voie. Alors l'idée d'Axel Kahn était, par une politique à la fois d'édition, notamment entre l'Université Paris Descartes et les éditions Lamartinière, et par une politique d'exposition, d'ouvrir l'université, qui est un monde clos en quelque sorte, à la cité, comme il le dit si bien. Et tout ça dans un contexte vraiment humaniste, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et puis ce qu'Axel Kahn m'a donné comme fil conducteur, desquels on peut s'échapper parfois, tout en restant, si vous voulez, dans ce contexte de l'humanisme, c'est les âges de la vie et l'homme et son corps.
Alors là, franchement, Trémois tombe...
Et Trémois, si vous voulez, tombe parfaitement, parce qu'il y a cet aspect métaphysique qu'on évoque dans son œuvre, mais il y a aussi cette précision quasi chirurgicale, si vous voulez, au niveau de l'anatomie.
Et cet amour des corps.
Et cet amour des corps. Le corps est au cœur de tout ça. Et Paris
et
Descartes
désir.
Est une université bon, qui compte près de 40 000 étudiants, que l'on connaît surtout pour ses disciplines scientifiques, et notamment la médecine pharmacie, ce qui n'empêche pas, nous avons beaucoup de sciences humaines, etc., et départements très importants. Et là, si vous voulez, ce traitement anatomique des corps s'intégrait de plus au-delà de la simple thématique du corps, s'intégrer d'autant plus, si vous voulez, à la vocation première, je dirais, de l'Université Paris-Descartes, qui est l'université de l'homme et de sa santé, à travers justement cette recherche anatomique.
Alors, saluons l'œuvre de Trémois, saluons l'homme aussi,
absolument.
92 ans, une œuvre immense, très forte, auquel on peut se confronter en se rendant et en se dépêchant d'aller au réfectoire des Cordeliers à Paris. Le métro, c'est Odéon. Et aussi en se procurant le magnifique catalogue Trémois, trait de passion.
Par contre, le réfectoire des Cordeliers, je rappelle, c'est le 15 rue de l'École de médecine. Et si je le souligne, c'est parce que la rue de l'École de médecine est en grands travaux par la ville de Paris. Et donc, il n'est pas toujours facile de s'y rendre. Mais il est impératif, malgré ça, d'y aller pour voir cette exposition magnifique.
Merci, Yvan Broard.
C'est moi qui vous remercie.